forcément le fond de ma pensée, mais c'est là que j'ai pu donner l'impression, si je comprends les questions, que cela marchait toujours de manière tout à fait fondamentale, tout à fait régulière et stable. Tout au contraire, je pense que précisément ces concepts de rationalité autoréférentielle et spéculative, c'est un concept tout à fait adéquat pour penser l'instabilité des conditions de l'évaluation collective. Et c'est un point que j'ai juste mentionné en passant, mais précisément, vous lirez par exemple dans le texte dont parlait Patrick tout à l'heure, un des grands points, en effet, et vous avez raison tous de le souligner, un des grands points de faiblesse de cette construction, y compris de l'individualisme patrimonial, c'est que les conditions d'expression de l'évaluation collective à travers cette forme très particulière de la rationalité autoréférentielle est largement instable. Et par exemple, l'opposer à des formes de délibération, d'autres formes de délibération qui auraient peut-être de temps en temps des contenus plus satisfaisants du point de vue de l'accord collectif et de sa stabilité. Donc, tout au contraire, cette capacité qu'a le marché à tout moment de se polariser, c'est la source de l'instabilité même. C'est-à-dire qu'à certains moments, il va se polariser, par exemple, sur les subprimes et à travers ces effets d'amplification. Autrement dit, ce que j'ai mis, au fond, le concept important, le lien important entre autoréférentiel et évaluation publique, c'est le caractère toujours cumulatif. Il y a un caractère cumulatif dans cette logique qui a tendance à aller aux extrêmes, à la fois dans l'évaluation positive et dans l'évaluation négative. Et d'ailleurs, en passant, lorsque les théoriciens de l'efficience regardent ce qui se passe, ils sont toujours surpris par cette espèce d'emballement. Par rapport au modèle, lorsque les prix baissent, le modèle classique, lorsque les prix baissent, ça doit engendrer un mouvement d'achat, puisque les prix baissant, on doit acheter, c'est moins cher. Au contraire, quand les prix montent, ça doit entraîner un mouvement de vente. Puisque c'est plus cher, on gagne. Or, ce qu'on constate bien sur les marchés, c'est que ça ne se passe pas comme ça par rapport à la loi de l'offre et la demande. C'est que quand les prix montent, on achète de plus en plus, et que quand les prix baissent, on vend de plus en plus. Et donc, et ça, pour le comprendre, c'est assez compliqué parce que lorsqu'on ne dispose pas de ce concept de rationalité autoréférentielle, c'est pas simple de comprendre pourquoi, quand quelque chose est plus cher, on l'achète plus, et quand il est moins cher, on le vend. Et la raison, c'est que simplement, c'est cette question du mimétisme, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est comment on projette les tendances. C'est ça qui est essentiel. Et donc, cette dynamique spéculative, c'est ça qui met tout le temps en sous-pression le système, surtout aujourd'hui, comme je l'ai indiqué, quand il subit aussi cette pression de rentabilité extrêmement forte qui pousse à essayer des taux de rentabilité. On est dans des zones qui sont tout à fait ahurissantes du point de vue des taux de profit. Donc il y a une recherche de profit de manière assez désordonnée que cela produit. Donc ça c'est un premier point. Donc il y a une espèce de ici. Cette idée d'autoréférentialité conduit à cette idée d'une instabilité de l'évaluation. Pourtant, en fait, je voudrais le dire quand même, pourtant, de temps en temps, le passage sur lequel j'ai expliqué ça était rapide, mais en fait, les formes, l'intérêt de cette rationalité autoréférentielle, c'est qu'elle produit des régimes assez différents. Celui que je viens de vous expliquer, c'est le régime de la montée aux extrêmes. Quand ça baisse, on vend de plus en plus, parce qu'on anticipe que là, vous voyez le mécanisme, on anticipe que les prix vont chuter, donc on veut s'en dégager, et quand on s'en dégage, on fait chuter les prix, donc on valide l'anticipation qu'on avait, et de même manière à la hausse. Donc, mais en même temps, l'autoréférentialité peut aussi se stabiliser sous forme d'évaluation routinière, quand les choses vont bien, quand une convention, ce que j'ai appelé dans le texte une convention, émerge. Donc l'intérêt de cette forme, c'est cette diversité. Elle permet à la fois de rendre compte de périodes de stabilité et des périodes de crise aujourd'hui. Alors, un des liens justement, la question de la liquidité, poser la question boursière à travers la question de la liquidité, c'est-à-dire à travers la question de la possibilité de produire une évaluation collective, pose le problème, en effet, du lien à la monnaie, et donc le problème du lien aux banques centrales. D'une certaine manière, comme j'ai expliqué, c'est une manière de créer, on pourrait dire, en allant vite, de créer son propre espace monétaire, qui serait l'espace des titres. C'est un peu osé, comme parce que la monnaie a d'autres propriétés, mais enfin, c'est un peu ça l'idée. L'idée que de la liquidité, c'est cette création d'un espace de circulation, d'un espace de valorisation qui a pour support les titres et comme organisation le marché financier. Et évidemment, un des points clés dans le cas, dans la régulation d'ensemble, c'est la relation avec les banques centrales, et on voit bien ça aujourd'hui. Il me semble qu'aujourd'hui, ce qu'on montre bien, au fond, c'est cette proximité qui s'est d'un seul coup inscrite dans les faits des titres financiers et de la circulation monétaire. La grande doctrine des banques centrales, c'est, jusqu'à maintenant, c'est, pour aller vite, disons, réguler l'inflation de façon à laisser l'évaluation patrimoniale suivre son cours sans perturbation, ça a été la condition fondamentale pour que le régime patrimonial puisse naître, hein, parce qu'en termes d'inflation, l'inflation crée des perturbations énormes dans l'évaluation et donc pose des problèmes pour les investisseurs, y compris les investisseurs institutionnels. Donc c'est la première règle. La deuxième règle, c'est de ne pas intervenir sur le marché des titres, de laisser le marché des titres s'auto-réguler, constituant sa sphère de socialisation de la valeur autonome. Ce qu'on voit aujourd'hui, comme vous le savez, c'est d'une part l'intervention classique de la Banque centrale qui prête par exemple à des institutions monétaires défaillantes, mais il y a quelque chose de nouveau qui se produit, c'est qu'elle accepte désormais de se porter contrepartie, d'acheter des vrais titres financiers. Ce qui est nouveau et qui est d'une certaine manière une rupture une rupture radicale par rapport au test classique du banquier du banquier central. Aujourd'hui, devant les difficultés des institutions financières, Bear Stearns et de la crise des subprimes, le fait d'intervenir comme elle le faisait classiquement sur le marché monétaire, essentiellement avec le relais des banques, n'est plus suffisant. Et il lui a fallu intervenir de manière massive en intervenant en quelque sorte sur le marché boursier lui-même, ce qui nous montre une nouvelle connexion étrange et intéressante du point de vue de la logique patrimoniale que je montrais tout à l'heure, entre monnaie et socialisation, je dirais valorisation monétaire et valorisation boursière qui d'un seul coup se voit ici connectée. Donc il y a pour essayer de faire face à ces problèmes de confiance, cette idée de pouvoir se servir du banquier de dernier ressort pour faire face aux contraintes de solvabilité. Évidemment, à chaque fois qu'on a ce type de processus, ça fait gagner du temps. L'exemple, semble-t-il, de ce qui s'est passé en 29, c'est que lorsque les banques centrales n'intervenaient pas et qu'il y avait des problèmes, il y avait des faillites bancaires, alors là, on avait une crise. La faillite bancaire, évidemment, est bien plus a bien plus d'impact sur l'économie que simplement les dépréciations boursières. Parce que la banque est très, c'est le circuit monétaire, c'est toute la vie de l'ensemble du salariat qui est touché en même temps. Donc, ce qu'on a appris, ce que les banques centrales ont appris de la crise de 29, c'est d'intervenir pour soutenir les banques. Mais là, on a un nouveau niveau qui est l'intervention pour soutenir même les instituts, les banques d'investissement en achetant des titres. Ce qui peut évidemment finir par poser des problèmes. La confiance, comme toujours, le problème de confiance est reporté sur la monnaie elle-même, parce que si jamais la crise continue, la Banque centrale pourra faire face à des dépréciations d'actifs. Donc, je pense que il y a beaucoup de choses dans le système qui va dans le sens de que vous dites. Hein. Il n'y a pas que ça. C'en est un parmi d'autres, mais en effet. Mais déjà, il me semble que mon propos, c'est d'essayer à mon sens, de revenir à la source, qui est la question de la liquidité. C'est à partir de là qu'il faut, me semble-t-il, penser, c'est-à-dire penser ce qui peut faire obstacle à la liquidité elle-même.
Moi, je ne sais pas, moi je suis absolument